journal, Olivia Ferrandi, bonjour.
Bonjour Karine, bonjour à tous. L'été en pente douce, derrière l'insouciance des vacances, il y a l'ombre du coronavirus. Les cas se multiplient subrepticement, alors la France a-t-elle les bons outils pour réduire l'inclinaison de la pente des contaminations? Des réponses dans ce journal, alors que le conseil scientifique pointe du doigt ce matin un défaut d'organisation pour les tests. L'été bien douloureux pour les professionnels du tourisme qui souffrent aussi de cette pandémie. Les vacances Made in France ne compensent pas pour l'instant l'absence d'une clientèle étrangère au fort pouvoir d'achat.
Et on en reparle avec notre invité, l'invité du grand entretien de la matinale, le ministre Alain Griset. Il est en charge des PME. Où en sont nos petites et moyennes entreprises face à la crise? Comment résistent-elles? Combien passeront l'été et tiendront jusqu'à la fin de l'année? Appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
Dans ce journal également, les policiers, des humains comme les autres. La réflexion d'un jeune détempe qui vient de participer au chantier de rénovation d'un commissariat. Vous retrouverez également votre série sur les nouveaux maires de France. Élodie Forêt nous emmène aujourd'hui dans l'ancien bureau de Patrick Balkany à Levallois-Perret. Et puis, les joueuses de tennis ont retrouvé hier le plaisir de la terre battue au tournoi de Palerme. Habituellement sans enjeu, ce tournoi se retrouve cette année sous les feux de la rampe puisque c'est de facto le premier de la saison.
France Inter.
Alors que la tendance était à la baisse depuis le mois d'avril, le nombre de malades admis en réanimation pour une forme grave du coronavirus repart à la hausse. 13 entrées supplémentaires depuis vendredi, selon la Direction Générale de la Santé. Soit près de 400 malades désormais en service de réanimation dans tout l'Hexagone. Les régions les plus touchées sont l'Île-de-France, à nouveau, mais aussi Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Hauts-de-France et la collectivité de Guyane. Les autorités sanitaires recensent également 3300 nouvelles contaminations en 3 jours. Alors, y a-t-il lieu de s'inquiéter face à cette recrudescence discrète mais bien présente? L'épidémiologiste Pascal Crépet, chercheur à l'École des hautes études en santé publique de Rennes, se montre nuancé mais conscient du risque.
Oui, on est sur une phase ascendante. Néanmoins, l'ascension est relativement douce et elle n'est pas comparable à celle que nous avons connue en mars. Donc, si la situation devait rester à ce niveau-là, l'épidémie pourrait être gérée. Les mesures que nous avons à notre disposition permettent de contrôler cette épidémie. Clairement, depuis le début juillet, le relâchement général de la population et peut-être une surcharge des capacités de tests dans le pays ont rendu ce contrôle beaucoup moins efficace. Il s'agit maintenant de trouver les moyens de revenir à cette situation antérieure afin de garder cette circulation du virus sous contrôle.
Et des propos recueillis par Renaud Candelier. Alors vous l'avez entendu, Pascal Crépet évoque la surcharge des capacités de tests en France. C'est le cas par exemple en Île-de-France où en une semaine, fin juillet, près de 122 000 tests ont dû être réalisés en urgence, en particulier parce que plusieurs compagnies aériennes demandent aux passagers de présenter un test négatif datant de moins de 3 jours avant d'embarquer. Alors le test comme sésame des vacances pour certains, alors que le but initial est de contenir l'épidémie en repérant et en isolant les malades. D'où cette question, faut-il des tests pour tous ou seulement pour un public ciblé? Dans les laboratoires, les avis sont partagés, Véronique Julia.
Il faisait 300 à 400 tests par semaine il y a un mois, il en a fait 1200 la semaine dernière. Thierry Leclerc, biologiste à Clamart en région parisienne, arrive malgré tout à gérer, car même si une partie de ses effectifs est en congé, les demandes d'analyse médicale, autres que le Covid, se font plus rares au mois d'août. Chez lui, on vient sans rendez-vous, on fait la queue 20 à 30 minutes, le résultat est donné en 48 heures.
C'est tout le monde qui vient, c'est les gens qui sont un peu inquiets, les gens qui partent en vacances, etc. Mais bon, c'est pas plus mal, hein. On ratisse très large, ça permet de mettre en quarantaine pas mal de personne.
Président du syndicat national des jeunes biologistes médicaux, Lionel Baran estime au contraire qu'on ne devrait pas autoriser, comme c'est le cas depuis fin juillet, n'importe qui à se faire dépister sans ordonnance. Il voit trop de monde, dit-il, venir engorger les labos juste pour se rassurer. Il faut d'après lui mieux cibler les publics à tester.
Vous avez un symptôme, vous êtes en contact avec des gens qui ont été testés positifs et vous revenez d'un pays dans lequel l'épidémie fait rage, vous vous faites dépister. Mais sorti de là, ça n'a pas de sens de dépister 70 millions de Français. Si des personnes sans risque particulier se font dépister, on risque d'emboliser la filière.
Lionel Baran qui s'attend à ce qu'on atteigne le cap des 600 000 tests hebdomadaires à la fin de cette semaine. Il appelle les pouvoirs publics à mieux coordonner les choses. Trop souvent, dit-il, on lance localement des campagnes de dépistage massif sans même avoir averti les labos d'une région ou d'une ville qui, faute d'anticipation, se retrouve d'un coup totalement débordé.
Et pour sa part, le Conseil scientifique préconise ce matin de définir au plus vite une nouvelle doctrine d'utilisation des tests en rendant ces tests accessibles au plus grand nombre. Le Conseil note également un nombre nombre insuffisant de centres de prélèvement et des difficultés d'organisation. Le conseil scientifique qui juge par ailleurs hautement probable l'arrivée d'une seconde vague épidémique à l'automne ou en hiver.
L'autre arme utilisée pour réduire les contaminations, c'est bien sûr le masque. Cela ne vous aura pas échappé.
Et les grands panneaux bleus et blancs, Karine, représentant un visage masqué barré de la mention obligatoire, régulent désormais la circulation des piétons dans les rues de nombreuses villes. À noter qu'à Nice, une vingtaine de haut-parleurs, installés en particulier dans le prolongement de la promenade des Anglais, diffusent toutes les demi-heures des messages martelant la nécessité de respecter les gestes barrières. Toutes ces mesures dissuadent-elles les touristes de venir passer leur congé en France? La filière commence à faire ses comptes. 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires déjà perdus, 200 000 emplois menacés, particulièrement dans les grandes villes, Manuel Ruffez.
C'est bien simple, toutes les destinations moteurs pour le tourisme ces 10 dernières années sont les plus impactées. Ce sont ces métropoles qui attirent en temps normal une clientèle étrangère à fort pouvoir d'achat, mais aussi, précise Didier Arinaud, directeur général du cabinet Pro Tourisme, qui compte beaucoup sur le tourisme d'affaires aujourd'hui. En Berne.
Le tourisme de congrès, d'affaires, de rencontres professionnelles, c'est 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Et cette année, on peut estimer que le chiffre d'affaires sera entre le tiers et la moitié. L'impact est considérable, avec à la clé, à l'évidence, des centaines de milliers d'emplois qui sont en danger.
En revanche, les Français redécouvrent leur pays, le littoral beaucoup, Bretagne en tête, Sud-Ouest, puis Méditerranée, mais aussi des destinations moins en vogue jusque-là et qui s'en tirent très bien.
C'est la revanche des destinations qui n'étaient pas des destinations à la mode. C'est le cas du Jura, c'est le cas des Vosges, de l'Aveyron, des destinations de l'intérieur avec de l'espace, avec du patrimoine naturel, un patrimoine gastronomique aussi qui séduit de plus en plus de nos concitoyens pour cet été.
Les Français, effrayés par les rassemblements, ont plébiscité la location de maisons individuelles et les activités qualifiées de douces, vélo, paddle et canoë.
Au niveau mondial, les pertes pour le tourisme sont de l'ordre de 320 milliards de dollars pour l'instant. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé recense désormais plus de 18 millions de cas de Covid et note une accélération de la pandémie. Mettez vos masques et vos désinfectants pour les mains dans vos kits d'urgence. Voilà l'injonction ce matin du gouverneur de Caroline du Nord aux habitants. Alors que la tempête Isaias a atteint les côtes de Caroline du Nord, elle a retrouvé la force d'un ouragan avec des rafales de l'ordre de 120 km/h pour l'instant. Un mot encore sur cette épidémie pour vous dire qu'Emmanuel Macron interrompt pendant quelques heures ses vacances aujourd'hui au fort de Brégançon. Le président est attendu à Toulon auprès des personnes âgées et des aides à domicile qui ont le sentiment d'avoir été les oubliés du confinement. Elles sont nombreuses à ne pas avoir perçu la prime pourtant promise par les départements.
Deuxième épisode à présent de notre série sur les nouveaux maires de France.
Et Karine, aujourd'hui c'est la fin politique d'un feuilleton aux mille et un rebondissements. Celui de la mairie de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Une mairie tenue d'une main de fer, vous le savez, par le couple Balkany pendant dans plus de 30 ans. Mais aujourd'hui, exit la photo de Patrick Balkany, tout sourire, vêtu d'une chemise d'un blanc immaculé. Place à une jeune femme de 35 ans, Agnès Potier-Dumas, élue avec 45% des suffrages fin juin. Alors vous allez me dire, voilà du 109.
Exactement.
Bah oui et non, car Agnès Potier-Dumas fut longtemps la directrice de cabinet de Patrick Balkany, condamnée récemment pour fraude fiscale, avant de se brouiller avec lui. Un changement dans la continuité, peut-être plutôt donc, Élodie Forêt.
Arrivée adolescente à Levallois, Agnès Potier-Dumas n'avait jamais imaginé s'installer un jour dans le fauteuil du maire.
Personne chez moi ne faisait de politique, je ne suis pas du tout issue de ce milieu-là. Donc non, quand je me suis installée à Levallois il y a 22 ans, je n'imaginais pas une seconde finir dans ce bureau.
Ses premières semaines à la tête de la ville sont donc un concentré d'émotions, de jolies surprises.
Des témoignages dans la rue, notamment de femmes qui sont venues à moi en me disant « on est heureuse que ce soit une femme qui soit à la tête de notre ville, vous allez donner une bonne image, une belle image, etc. »
Une certaine pression aussi.
C'est un vrai défi de se dire « bon, bah maintenant, la campagne c'est bon, mais maintenant il faut être à la hauteur. Parce que le drame, ce serait de ne pas être à la hauteur après l'élection. »
Agnès Potier-Dumas, première femme maire de Levallois, qui si elle faisait partie de l'ancienne équipe, adjointe puis directrice de cabinet, c'est qu'elle doit imprimer un nouveau style. « Je n'ai pas à le surjouer », sourit-elle.
J'ai une de vos collègues qui m'avait dit un jour « Avec vous, on passe du cigare au thé vert. » Patrick Balkany avait un côté très bon vivant, les bonnes bouffes, le cigare. Bon, bah, moi je suis végétarienne, je ne bois pas. C'est, on va dire, peut-être plus sobre. octobre. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'ennuie à la mairie de Levallois, attention.
Différente sur la forme et sur le fond, avec des conseils municipaux retransmis en direct, plus apaisés. Une politique familiale accrue aussi, avec une maison qui lui sera dédiée. La famille Credo d'Agnès Potier-Dumas, nouveau visage de Levallois.
Voici maintenant une nouvelle version de la police de proximité. Car si l'expression n'est plus d'actualité depuis la suppression de cette mission par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur en 2003, la réalité laisse souvent penser le contraire. Exemple à Étampes, en Essonne, où des jeunes viennent de repeindre le hall du commissariat avec la complicité bienveillante des policiers. Une démarche qui tranche avec les scènes de bagarre de vendredi dernier sur la base de loisirs. Léo Técher.
Accompagné de deux jeunes adultes ayant participé au chantier, le commissaire Éric Bouffet les remercie et compare le nouveau hall avec les vieux murs d'un couloir.
Le mur abîmé, un peu écaillé, la peinture
jaunie.
Et là, on est dans le hall, beaucoup plus lumineux.
Moi, j'ai peint le radiateur.
Seda est l'une des 12 participants au projet. Elle a 18 ans.
Je devais aller loin avec le pinceau, il fallait être précis.
Au-delà de quelques compétences en peinture, ce chantier a surtout permis aux policiers et aux jeunes, comme Youssouf, d'apprendre à se connaître.
On les voit souvent dans la rue, dans les quartiers. Alors qu'ici, j'ai vraiment pu voir que... on peut discuter, c'est des humains comme nous en fait.
Youssouf vient d'avoir son bac, il ira en IUT à la rentrée prochaine. Un parcours qui alimente les conversations avec les policiers, d'autant qu'il vient du quartier de Guinette où les équipes du commissaire ont parfois du mal à intervenir.
Ce qui fait du bien, c'est de montrer une autre image de ces quartiers, parce qu'on focalise toujours sur ceux qui font... des bêtises. Et là, on nous montre des jeunes qui vont s'insérer dans la société, qui en veulent.
Une rencontre pleine d'espoir pour Mamadou Bem, éducateur spécialisé pour l'association Odéo qui est derrière ce projet.
Le fait d'avoir croisé des officiers sur leur lieu de travail à l'extérieur, ça sera déjà une ambiance beaucoup plus détendue des uns et des autres.
Avec le projet Permis Citoyen et ses chantiers, l'association a déjà financé le permis de conduire d'une cinquantaine de jeunes de l'agglomération des Temps.
Un reportage signé Léo Técher.
Au chapitre judiciaire à présent, un an après la disparition d'une adolescente de 15 ans, ses parents obtiennent la relance de l'enquête.
Oui, les investigations doivent reprendre le 24 août en Malaisie, car Nora Kouarin a disparu il y a tout juste un an au sud de Kuala Lumpur. Elle était en vacances dans un complexe hôtelier lorsqu'un matin, ses parents ont retrouvé sa chambre vide. Le corps de la jeune franco-irlandaise sera localisé 10 jours plus tard dans la forêt. Les autorités de Malaisie concluent alors à une fugue qui s'est mal terminée. C'est impossible, assurent depuis les parents qui avancent comme argument le handicap mental de leur fille. Juan Carlos a-t-il pris la fuite pour échapper à la justice de son pays? Bien sûr que non, assure son avocat qui précise que l'ancien roi se tient à la disposition des enquêteurs. C'est une fuite, ça ne fait aucun doute, déplore pour sa part sur Twitter le numéro 2 du gouvernement espagnol, Pablo Iglesias. En tout cas, Juan Carlos fait figure de roi déchu aujourd'hui, mis en cause par son ancienne maîtresse allemande dans une affaire de corruption présumée. Il a choisi de quitter l'Espagne afin de ne pas ternir l'image de l'actuel souverain, son fils Felipe VI. Anthony Bélanger vous dévoile les méandres de cette affaire juste après ce journal. Je n'ai fait que mon travail. J'ai couvert toutes les manifestations, y compris les pro-gouvernementales. C'était mon devoir de le faire pour que le citoyen algérien puisse avoir accès à l'information en toute objectivité. Ces mots sont ceux du journaliste indépendant Khaled Draneni. Des mots lancés à la cour hier à Alger à l'ouverture de son procès. Correspondant de TV5 Monde, fondateur du site d'information Casbah Tribune, le reporter a été arrêté à 4 reprises depuis 2019, depuis le début du mouvement de contestation en Algérie. Il est cette fois incarcéré depuis le 29 mars et il risque 4 ans de prison ferme pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Christian Chesneau.
En le jetant en prison, le pouvoir a fait de Khaled Draneni le symbole d'une liberté de la presse aujourd'hui mise à mal en Algérie. C'est un procès absurde, son dossier est complètement vide, dénonce Souheb Kayati, responsable du bureau de Reporters sans frontières pour l'Afrique du Nord. Il s'agit d'une procédure politique pour faire taire les voix contestataires et indépendantes, ajoute de son côté Pierre Audin du comité de soutien à Khaled Draneni et fils du militant anticolonial Maurice Audin.
Khaled Draneni est quelqu'un qui suit le mouvement depuis le 22 février 2019. Ce que montre un journaliste indépendant, visiblement, ça pose un problème. Bon, finalement, il a été mis en prison. Ça fait quand même 4 mois qu'il est en prison juste parce qu'il fait son métier de journaliste. Et je pense que les gens qui se sont battus, qui ont donné leur vie pendant la guerre de libération, ne l'ont pas fait pour que on continue à assommer le peuple avec des fausses nouvelles ou en leur faisant croire des choses. Il y a un certain nombre de journalistes qui font leur travail et on les en empêche.
Les autorités algériennes ont profité de l'épidémie de Covid-19 pour étouffer la contestation populaire, la justice multipliant les poursuites et les condamnations contre les opposants politiques, les journalistes et les blogueurs.
Le verdict est attendu lundi prochain.
Le sport et le tennis qui a repris ses droits.
Après 5 mois d'arrêt en raison de la pandémie, c'est le tournoi de Palerme en Italie qui a ouvert le bal hier avec une armada de mesures sanitaires, Stéphanie Mora.
Les joueuses ont dû arriver à Palerme avec 3 jours d'avance et passé 2 tests Covid. L'une d'entre elles, testée positive, a déclaré forfait. Pour les autres, c'est un peu assignation à résidence.
C'est assez différent quand même.
La joueuse française, Fiona Ferro.
Il y a quand même pas mal de restrictions. Normalement, on est censé ne pas sortir de l'hôtel.
Déplacement uniquement sur les lieux de la compétition, contact limité entre joueuses, pas vraiment un problème pour la Belge Élise Mertens, 23e mondiale.
C'est assez sûr. Porter un masque dès qu'on sort de la chambre à l'hôtel ou au club, se laver les mains régulièrement, finalement c'est ce que l'on fait depuis 5 mois.
Côté match, public divisé par 3, 2 fois moins de juges de ligne et de ramasseurs de balles, pas de coach sur le court. Fiona Ferro est pourtant prête pour cette ambiance intimiste.
C'est pas contraignant, non. C'est plutôt la joie de rejouer qui prime, mais non, je ressens pas trop d'anxiété.
Pour Jean-François Cojol, qui organise les tournois de tennis de Lyon et de Marseille, Palerme montre la voie.
En maintenant la distanciation, en maintenant certains gestes barrières, je crois que la vie doit reprendre. Et à l'intérieur de la vie, le tennis doit reprendre aussi.
2 autres tournois à Prague la semaine prochaine, puis Lexington, serviront de test sur le circuit féminin avant les gros rendez-vous de Cincinnati et de l'US Open.
Et sinon, côté purement sportif, le camp français déplore déjà la défaite de Kristina Mladenovic, battue par la Russe Yekaterina Alexandrovna, dès le premier tour donc.
À demain, ma chère Olivia.